toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre, l'émission qui décrypte les enjeux globaux sur France Culture. Comme chaque mercredi, même ce 11 novembre, nous sommes ensemble de 14h à 14h56 sur les ondes et sur Internet pour ce rendez-vous géographique avec les chercheurs qui arpentent le globe. Aujourd'hui, focus sur les prisons.
Cayenne, c'est fini, pas de veine. Plus de soucis, Cayenne, c'est fini.
Dix millions, c'est le nombre approximatif de détenus dans le monde, soit près de 1,5% de la population mondiale. La très légère baisse du nombre de prisonniers aux USA et en France ne fait que souligner une tendance planétaire lourde, l'expansion de l'espace carcéral. Dans l'Atlas global des éditions Les Arènes, Olivier Millot précise que le nombre de détenus dans le monde augmente plus vite que la population mondiale. Pourquoi ? Comment, jusqu'à quand? C'est une première interrogation. Pour autant, la géographie pénitentiaire est un troublant jeu d'échelle. À l'échelle du planisphère et de la société monde, on est frappé de la disparité et de l'hétérogénéité qui prévaut entre les pays. On comprend tout de suite que ce n'est pas le taux de criminalité qui explique principalement le taux d'incarcération. Sinon, pourquoi y aurait-il de telles variations? Alors, pourquoi certains pays et pas d'autres font-ils de l'espace carcéral un instrument privilégié d'aménagement du territoire et de l'espace de la société? C'est une deuxième question. Il y a enfin l'échelle des lieux de vie que sont les prisons dans le monde. Quelles spatialités produisent l'entassement et la surpopulation carcérale? Les prisons et les lieux pénitentiaires en tout genre s'inscrivent en effet dans les économies locales comme dans l'espace politique. Les prisons sont les laboratoires architecturaux et urbanistiques des administrations comme des pouvoirs. De quel vivre ensemble, de quel habiter l'espace carcéral du XXIe siècle est-il le miroir déformant? C'est mon troisième questionnement. L'univers carcéral est-il en expansion? C'est le sujet de Planète Terre cette semaine.
C'est fini. Cayenne, c'est bien fini.
Ok, on s'y met. Élément de réponse avec mes trois invités. Marie Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en géographie à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, c'est comme ça qu'on dit?
Oui, oui.
Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste des prisons en Afrique subsaharienne. Vous avez coordonné au printemps 2015 le numéro des annales de géographie dédié à l'enfermement. Jean-Luc Domnac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche en sciences politiques au CERI, le Centre d'études et de recherche internationales de Sciences Po, spécialiste de la Chine, auteur d'un ouvrage de référence sur les prisons chinoises, Chine, l'archipel oublié, publié chez Fayard. Je ne cite que cet ouvrage, Jean-Luc Domnac, vu le sujet d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Olivier Millot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en géographie à l'université Paris-Sorbonne. Donc vous, on ne donne pas le numéro, c'est Paris 4 Sorbonne, mais maintenant on dit Paris-Sorbonne. Et vous êtes pionnier des recherches sur l'espace carcéral. Alors merci à tous, à vous trois, d'être là avec les auditeurs qui, pour un grand nombre d'entre eux, profitent, je l'espère, de ce jour férié. Nous sommes là pour les accompagner. Ma première question, Olivier Millot, est pour vous, puisque dans l'Atlas global, dirigé par Gilles Fumet et Christian Grataloup, l'expansion de l'espace carcéral est qualifiée de course folle. Hein, votre chapitre s'intitule « Derrière les barreaux », il y a une magnifique carte par Anamorphose. Et comment vous pouvez nous expliquer que cette expression, la course folle de l'emprisonnement du monde, vous paraît, c'est certes une image, mais vous paraît en tous les cas une image intéressante, pertinente pour parler de l'espace carcéral, surtout qu'en plus, je le dis en passant, ça met pour vous l'espace carcéral sur le même plan que le changement climatique. Je parle du bouquin, bien sûr. Hein.
D'accord.
La course folle, il y a à la fois l'espace carcéral et le changement climatique. Donc, Dites-nous.
Oui, en fait, juste une précision sur le changement climatique, ça devait être une modification des éditeurs avant le rendu du texte. Mais trêve de plaisanterie. Au niveau de la course folle, c'est les chiffres, et notamment les chiffres pour certains pays qui sont extrêmement frappants dans ce recours massif à l'incarcération. Alors c'est vrai, vous l'avez dit en tout début d'émission, on a une inversion de tendance aux États-Unis contre toute attente, aux Pays-Bas, dans certains autres pays. Donc de ce côté-là, on pourrait nuancer si on raisonnait juste sur les deux dernières années ou trois dernières années.
L'inversion de tendance, en clair, c'est 12 000 détenus en moins dans les pénitenciers fédéraux aux États-Unis.
Voilà. Alors... Mais ce qui était du jamais vu, en fait, hein, une baisse depuis 30 ans. Et ce qui avait justement d'étonnant pour les États-Unis, c'est que depuis 1980, le nombre de détenus aux États-Unis a augmenté de 800%. Donc des chiffres délirants, avec ce problème bien évidemment de constamment étudier les États-Unis, puisque c'est vraiment un détenu sur 5 dans le monde et là-bas.
Un cinquième, oui.
Et c'est vrai que c'est, enfin, le monde ne se réduit pas aux États-Unis. Marie Morel et Jean-Luc Domenac le souligneront longuement. Mais c'est vrai qu'il y a d'un côté ce prisme états-unien où on voit une augmentation, et d'autre part on observe ce recours assez massif à l'incarcération dans beaucoup d'autres pays du monde, alors même que l'on parle d'alternatives à l'incarcération, de nouvelles peines, etc. Donc c'est un peu un paradoxe. C'est vrai que d'autres spécialistes parlent d'extension du filet pénal. C'est-à-dire, oui, il y a des alternatives à l'incarcération qui se développent dans le monde. Oui, il y a d'autres peines, sauf qu'elles touchent des personnes qui ne seraient pas allées en prison. Et en revanche, on observe de plus en plus de détenus, malgré cette inflexion pour certains pays.
Jean-Luc Domenac, Olivier Millot vient d'évoquer les États-Unis. Les États-Unis qui sont présentés classiquement maintenant comme, on va dire, le pays de l'espace carcéral par excellence. Est-ce que c'est... parce qu'on va considérer qu'aux États-Unis les statistiques sont fiables, que c'est le cas. Parce qu'évidemment, on est un peu surpris, peut-être de manière dont vous allez estimer qu'elle est cliché, que la Chine ne figure pas, on va dire, en tête des pays qui incarcèrent le plus de gens pour 100 000 habitants.
D'abord, je voudrais développer deux points. D'abord, quand même, jeter un doute sur la remarque générale. Parce qu'elle est probablement valide pour les pays développés, et qui est effectivement très surprenant, alors qu'on a des moyens, alors qu'on y réfléchit, etc., etc., et qu'on continue à augmenter le nombre des prisonniers, il y a quelque chose d'un peu spé, comme disent mes enfants.
Course folle, donc.
Pardon ?
Course folle.
Ah oui, c'est ça. Hein ? En revanche, il y a dans le reste du monde, beaucoup de pays du tiers-monde, pas seulement la Chine, l'Inde, etc., etc., bien d'autres, ont plutôt moins de détenus qu'avant, voyez, et sans parler de la Russie. Hein. Donc, d'une part, moi, je ne sais pas ce que donnerait un compte total, si vous voulez. Alors, deuxièmement, pour la Chine, là, et je vais commencer par une autocritique, tous mes chiffres, dans le livre que vous avez eu l'amabilité de citer, étaient exagéré. Et la tendance est forte, ils le savent bien. On est tellement effaré, quoi. C'est tellement absurde cet univers que on en augmente toujours. On a tendance à ajouter un zéro. En clair, je pensais que au milieu des années 50, il y avait 15-20 millions de Chinois derrière les barreaux. Et dans les faits, c'était plutôt 5 à 10. Maintenant, on est tombé aux alentours de 2-3 millions. Donc ça reste énorme, ça reste absurde, mais ça veut dire aussi que la Chine est quand même en train de rentrer petit à petit dans un circuit de moindre brutalisation et de moindre horreur.
Et cette absurdité, alors, comment elle s'explique ? Elle a bien une fonction, une raison ?
Alors, c'est très clair pour... cette absurdité avait sa rationalité en 1950. Il y avait beaucoup de prisonniers, ils pesaient lourd. Allez, faites-moi disparaître tout ça. Hein. Mao Tse-Tung, il y allait pas doucement. Hein. Ensuite, suite, ils ont cherché à faire de l'homme nouveau. Là encore, c'était un argument, on va en faire des automates, vous allez voir comme ils vont être efficaces. Ça n'a pas marché, alors ils sont un peu découragés, et maintenant ils se sont aperçus bon, qu'il faut finalement enfermer le moins possible, parce qu'on n'y arrive jamais, il n'y a pas de bonne solution. Quoi. Voilà, donc 2-3 millions pour 1,3 milliard d'habitants, on est tombé, disons, dans du presque civilisé. Enfin, bon, voilà.
Marie Morel, est-ce que vous êtes en écho avec le propos liminaire de Jean-Luc Domenac sur le fait que dans les pays du tiers-monde, je le cite, on l'a tous entendu à l'instant, le nombre de détenus aurait plutôt tendance à baisser, s'agissant de l'Afrique subsaharienne que vous connaissez bien et de quelques pays en particulier dont vous avez envie de nous parler?
Alors en fait, je serais bien en difficulté de répondre parce que les chiffres sur l'Afrique subsaharienne, d'abord, sont souvent absents. Il y a un problème, les États ne communiquent pas facilement les chiffres sur les établissements pénitentiaires. Et puis, sur les quelques données qui sont diffusées, outre ce problème de la fiabilité, on a ce problème de pouvoir les inscrire dans la durée. Un chiffre à l'instant T ne nous donne pas une image du continent sur plusieurs décennies. Donc je serais bien en mal de considérer qu'il y a expansion ou à l'inverse baisse du nombre des détenus sur le continent en Afrique.
Olivier Millot.
Oui, mais enfin c'est très juste de souligner ces difficultés pour les ces difficultés statistiques, sachant que par exemple certains pays vont considérer que la détention préventive, donc avant d'être jugé, on va enfermer les gens. Nous en France, on appelle ça des maisons d'arrêt. Donc ça va relever du système pénitentiaire, ça va rentrer dans les statistiques le nombre de détenus. D'autres pays vont dire ah mais non, eux ils sont en préventive, c'est un autre type d'établissement, vous n'avez pas à comptabiliser ça. Donc, si vous voulez, en démographie carcérale, c'est toujours très compliqué de savoir qui est détenu et qui est ce qu'on appellerait détenu en France, mais autrement ailleurs.
Je comprends bien. Alors, néanmoins, Marie Morel, si vous le permettez, je vais adopter le point de vue de Sirius. Je me réfère, encore une fois, à la carte de l'Atlas global sur le nombre de prisonniers par pays en milliers, le nombre de détenus pour 100 000 habitants, qui corrobore un certain nombre d'informations qu'on trouve assez facilement sur Internet, sur des sites spécialisés. Il est clair que on voit se détacher dans des couleurs qui manifestent que il y a plus de détenus pour 100 000 habitants qu'ailleurs en Afrique, le Rwanda, le Maroc, l'Algérie et l'Afrique du Sud.
Oui, mais à chaque fois, on est dans des contextes assez divers. En Afrique du Sud, je dirais, on peut se rapprocher du raisonnement qui est mené aux États-Unis. Il y a une société industrielle en crise, des populations pauvres qui n'ont pas accès au salariat et une criminalisation de la pauvreté. Donc une industrie carcérale en quelque sorte en Afrique du Sud. La prison du Rwanda, c'est un petit peu l'archétype de la prison en Afrique parce qu'on a vu beaucoup de reportages, beaucoup d'images sur ces prisons surpeuplées. On s'inscrit dans le contexte post-génocide où, bien évidemment, beaucoup de personnes ont eu à rendre des comptes sur leur participation au génocide. Je serais plus en peine de vous répondre sur l'Algérie et le Maroc, mais là encore, on peut estimer que se joue l'influence, cette fois-ci, du contexte politique et moins du contexte social. J'ajouterais, par rapport à ce que disait mon collègue Olivier Millot à l'instant, c'est de la même manière qu'on va aussi distinguer les prévenus et les détenus, qu'il faut aussi prendre en compte peut-être en ce moment sur le continent en Afrique, une expansion du nombre de détenus politiques avec les conflits, les crises, je pense en particulier au Burundi en ce moment. Ce qui fait que cette expansion, en fonction du type de détenus, du type de délits, de crimes qu'on considère, elle va être à degré très variable.
Comment, si on essaie de généraliser ce que vous disiez à l'instant sur l'Afrique, comment est-ce que vous pensez, Olivier Millot et Jean-Luc Domenac, qu'on peut essayer d'expliquer la diversité géographique des taux d'incarcération? Parce que du coup, on se dit, il n'y a pas de raison que globalement, il y ait des taux de criminalité très différents d'un pays à l'autre. Bien sûr, hein, toutes les sociétés, on va dire, ne se valent pas, entre guillemets, hein, ne fonctionnent pas de la même façon, mais quand même. D'ailleurs, Jean-Luc Domenac, vous nous le disiez à l'instant, le fait que le nombre de détenus en Chine est considérablement baissé montre bien que il y a des raisons, je ne sais pas comment les appeler, culturelles ou politiques.
Je voudrais suggérer à mon jeune collègue une clé et avoir son avis. Je crois qu'il y a dans toute une série de pays un facteur fort pour la décroissance, c'est la fin des totalitarismes, disons, ou leur dégradation. La Chine s'intéresse beaucoup moins maintenant à augmenter le nombre des détenus, etc. On ne cherche plus à changer l'homme, etc. Le Vietnam, ça c'est énorme. Le Cambodge a fini de s'assassiner lui-même, etc. Ça faisait du monde quand même. Hein. Il y avait, ils étaient 6 millions, mais il y avait quand même 1,5 million de gens qui étaient arrêtés, si vous voulez. Donc il y a là un phénomène, ça va en faveur de la décroissance. Et en faveur de la croissance, moi, je crois, c'est les mutations économiques, le fait que le développement, hein, la France, je ne suis pas un immense spécialiste de la prison en France, mais c'est clair que le 19e siècle, c'est celui de l'industrialisation, et qu'on voit les prisons commencer à se charger, etc. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un tiers-monde, si vous voulez, qui est en train de se tenir plus convenablement, et un autre qui se tient, disons, moins bien, parce que par ailleurs, il y a l'argent, il y a etc. Je ne sais pas ce que ça vaut, ça.
Oui, si. Enfin, c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on est face à un planisphère de se dire oh là là, mais il y a tellement de critères à prendre en compte. Je vais juste peut-être prendre quelques pays que l'on cite souvent. Si on prend l'Inde. L'Inde, bien évidemment, c'est un des pays les plus peuplés au monde. Donc logiquement, il y a énormément de détenus. Sylvain Kahn, en début d'émission, vous soulignez l'intérêt de raisonner en pour 100 000 habitants. Alors, si les chiffres indiens sont fiables, l'Inde a très très peu de détenus. C'est 30 détenus pour 100 000 habitants. C'est ridicule, hein. La France, on est trois fois plus. Et en même temps, quand on demande aux indianistes mais comment on peut expliquer un chiffre aussi faible, ils nous disent « Ah, mais faites attention, en Inde, on privilégie les règlements informels, où disons que l'autorégulation dans la société indienne va être beaucoup plus forte, et on a des structures sociales extrêmement élaborées, donc en gros, on va avoir d'autres recours que la prison. » À l'inverse...
Olivier Milhaud, j'entends bien votre explication qui est très précieuse, mais en clair, ça veut dire que dans un très grand pays comme l'Inde, on emprisonne beaucoup moins.
Oui, proportionnellement, oui, tout à fait. À l'inverse, en gros, quand on regarde le nombre de détenus, il faut prendre en compte à la fois le nombre de détenus à l'instant T, le stock de détenus, c'est pas très heureux comme expression, mais les démographes parlent comme ça, et regardez aussi...
Chargeons les démographes, vous avez raison, il n'y a pas de démographes autour de la table,
allons-y. C'est grâce à eux qu'on peut parler des statistiques pénitentiaires, et aussi de regarder le flux, c'est-à-dire le nombre de gens qui rentrent en prison. Et les démographes nous disent, mais faites attention, regardez la longueur des peines. Et on va prendre, par exemple, le cas des États-Unis. Bon, ils s'en mordent un peu les doigts maintenant, mais ils ont eu cette idée des peines planchers. C'est-à-dire, vous êtes en situation de récidive du même délit ou même crime, vous aurez une peine minimale, quoi qu'il arrive, même si c'est trois fois un vol de paquet de cookies, quoi. Enfin, ça a l'air ridicule. Mais le juge va dire, vous tombez sous le coup de la peine plancher. La peine sera longue. Et une peine longue, nous, on a du mal à le mesurer, de dire, attendez, il reste 6 mois ou il reste 1 an en prison, est-ce que c'est vraiment très différent? Mais d'un point de vue démographique, bien évidemment, c'est une place qui est squattée, pardonnez-moi l'expression, pendant 6 mois de plus. Donc vous voyez, quelque chose qui va être juridique peut jouer, quelque chose qui peut être culturel ou social, on a du mal à l'exprimer, peut jouer. Et la fin des totalitarismes, bon, ça va dépendre des contextes, hein, bien évidemment.
Alors, puisqu'on est un instant sur les USA, restons-y. Je voudrais vous proposer de réagir, Jean-Marie Domenac, Marie Morel et Olivier Milhaud, à l'entretien que Marie Cretenot a accordé à Sophie Bobert, qui a été l'interrogée pour Planétaire. Marie Cretenot est responsable du plaidoyer à l'organisation, à l'Observatoire international des prisons.
Certains pays font figure de repoussoir. On peut penser à l'Afrique du Sud, au Bangladesh, par exemple, hein, avec des taux d'occupation de 300%. Vous, Marie Cretenot, vous avez envie de souligner la politique des prisons privées aux États-Unis. Ces prisons privées exigent, dans les contrats qui passent avec les gouverneurs d'État, des taux d'occupation entre 80 et 100%. Quel que soit le chiffre de la criminalité.
Oui, c'est ça.
Et dans ces cas-là, c'est on va, il y a tout intérêt du coup à maintenir ce type de politique, et c'est des intérêts surtout pour ces entreprises, et puis parfois avec des enjeux locaux parce que ça embauche des personnes sur le territoire. Et du coup, il y a tout un intérêt pour les autorités judiciaires ou localement en fait, enfin d'envoyer ces personnes en détention. Avec un système aussi où, du coup, on peut avoir des prisons si la criminalité baisse. On peut avoir des prisons publiques avec des places vides. Et par contre, on va envoyer les personnes dans ces prisons privées avec très peu de contrôle sur la manière dont... C'est généralement les conditions de détention sont bien plus dures, plus spartiates, parce qu'en plus, le privé n'a pas vraiment envie d'investir là-dessus, et où on aura une mise en avant, justement, plus la peine est dure, meilleur l'effet sera, parce que les personnes n'auront pas envie d'y retourner. Mais ce qui, encore une fois, ne fonctionne pas. Et donc, il va falloir une révision globale du système répressif. D'accord. Et aujourd'hui, il y a quand même cette prise de conscience, alors avec des arguments différents. Enfin, il y a ceux qui voient le coût que ça représente. Et donc, on peut même avoir des libéraux ou des gens assez conservateurs qui vont dire il faut revoir le système parce que ça nous coûte trop cher. Et d'autres qui vont aussi avoir l'approche... ça ne fonctionne pas, c'est pas la bonne manière de répondre à la criminalité. Il va falloir maintenant un peu investir sur tout ce qui est réinsertion.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
Jean-Luc Domnac, est-ce qu'on peut dire qu'en Chine aussi, cette espèce de... Enfin, que la Chine serait comme les États-Unis, entrée dans un marché de la peine, une industrie de la punition, où finalement la fonction crée l'organe, et que ça serait une évolution qui serait arrivée en Chine en raison de l'importance prise par le capitalisme en Chine.
Oui, je crois qu'ils aimeraient bien. C'est certainement des gens qui sont en train d'y réfléchir, ça, oui. Mais il reste trop de bureaucrates, trop de gens formés au temps du communisme pour glisser, disons, vers une évolution capitaliste, en quelque sorte, du système carcéral. D'autant que... les opposants ont un argument, et de dire c'est pas la peine de faire carrément du capitalisme, puisque de toute façon on met au travail dans nos prisons publiques, on met au travail les prisonniers, et que de toute façon c'est nous qui ramassons l'argent, donc c'est pas la peine quand même de se fatiguer à faire de la prison capitaliste. Parce que ce qui se passe, c'est que la prison est totalement intégrée au système économique, ce qui dans les meilleures prisons, je pense à Shanghai, à Pékin, etc., rapporte de l'argent à peu près tout le monde chez les chefs, mais ce qui, dans les zones lointaines, c'est pas rentable, etc., etc., produit des hurlements dans la chaîne de commandement, parce que alors c'est plus la peine d'avoir des prisons si on peut pas faire de l'argent sur le dos des détenus, quand même. Où va-t-on, vous voyez ? Donc c'est un petit peu ça. Donc il y a le fait que une évolution capitaliste est en cours ailleurs, et que ça, ils suivent tout ça, les Chinois. Et le fait que par ailleurs toute l'économie chinoise soit dans le milieu entre l'économie bureaucratique et l'économie privée, ça joue un effet sur le système des prisons.
Vous évoquez, ce faisant, Jean-Luc Domenac, l'emplacement des centres de rétention, enfin plutôt des prisons ou des centres pénitentiaires, je voulais dire. Marie Morel, est-ce que vous diriez que on peut un peu expliquer de manière un peu structurelle où se trouvent les prisons dans les différents pays d'Afrique que vous avez étudiés?
Oui, on peut inscrire l'emplacement des prisons dans une perspective historique, puisque même si encore aujourd'hui l'histoire précoloniale ne s'est pas suffisamment emparée de l'étude des modes de punition, on sait que globalement la prison apparaît avec la colonisation. Donc colonisation allemande, colonisation portugaise, belge, française, britannique. Donc par conséquent, au fur et à mesure que les empires coloniaux se forment, au fur et à mesure que des colonies se dessinent, eh bien, là où il y a un centre administratif, un centre commercial ou un centre de, une garnison qui s'installe, eh bien, on va installer une prison. Par conséquent, on va trouver une prison, si je prends l'exemple du Cameroun, eh bien, dans toutes les villes principales, les villes secondaires, jusque à la première ville, dans un environnement rural donné. Donc on, là, on retrouve une répartition assez classique, en fait, et pas nécessairement propre à la seule, au seul continent africain.
Donc si je vous entends bien, avant la colonisation, avant les empires coloniaux, la prison ne faisait pas partie, disons, du système judiciaire et punitif.
La prison comme peine, pas nécessairement, non. On peut trouver un recours à l'enfermement dans certaines chefferies, ou dans certains royaumes, mais de manière générale, on est plutôt sur des modes qui vont du bannissement, de l'exil, éventuellement l'exécution, ou à l'inverse, à des modes de réparation. On s'assied, on négocie, on demande aux coupables de réparer le dommage subi.
Il en reste quelque chose de cela aujourd'hui, dans les sociétés africaines que vous connaissez ?
Alors, il est vrai que très souvent, les plus anciens en milieu urbain vont vous répondre que quand on recourt à la prison, c'est que tout a échoué et d'une certaine manière, c'est l'échec de nos sociétés. Cela étant, justement, il y a encore beaucoup, mes collègues qui faisaient référence, il y a encore beaucoup de médiation. Formelles et informelles qui se maintiennent pour éviter d'aller en prison. Et ça peut être faire appel à des médiations au sein d'une famille, ça peut être, on peut aussi faire appel à l'église et également au sein des commissariats, les policiers eux-mêmes participent de modes de réparation en essayant d'expliquer à toutes les parties qu'elles ne gagneront rien à se lancer dans une procédure judiciaire. Alors évidemment, dans cette médiation, il y a une part de corruption, mais pas on ne peut pas résumer ces discussions dans les enceintes des commissariats uniquement à la volonté de gagner de l'argent. Les gens savent que c'est un coup de se lancer dans une procédure judiciaire, que la justice est corrompue et que finalement ce n'est pas parce qu'une personne ira en prison que eux obtiendront la réparation du préjudice subi. Par contre, aussi parfois, on voit la prison apparaître dans des règlements de compte. Quelqu'un qui est monté trop haut, trop vite, qui réussit trop, on peut le faire tomber et essayer de le mettre en prison.
Moi, j'aimerais quand même poser une question à mes deux collègues, parce qu'ils ont, comment dire, dans le temps, quand je travaillais sur les prisons chinoises plus directement, j'avais un peu regardé dans le reste du monde. Là, maintenant, je fais autre chose, disons, ces derniers temps. Et donc, j'aimerais avoir leur avis à propos des thèses qui disent, au fond, l'âge industriel, ça a été l'âge capitaliste et l'âge de l'enfermement. Il y a comme ça toute une tendance, un petit peu, pour mettre tout ça dans le même sac. Et peut-être que c'est ça, et peut-être que c'est pas ça. Comment vous réagissez un petit peu, vous autres?
Surtout qu'en plus, on est très informé par la lecture de Michel Foucault, quand voilà, on a ce paradigme en tête, hein, bien sûr.
En fait, l'explication a l'air moins... enfin, ça se rejoint, bien sûr, hein, mais moins économique que sociale. Mmh. C'est-à-dire, il y avait eu une étude de longue durée en Belgique, et où on observait période de croissance économique, le nombre de détenus baisse, et au contraire, période de crise, le nombre de détenus augmente. Si on essaye de l'appliquer sur la France, sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on a des prisons mais remplies. Bon, c'est l'épuration, les collaborateurs, etc. Ça baisse jusqu'au début de la guerre d'Algérie. À partir de la guerre d'Algérie, ça réaugmente très fortement. Et dès que la crise économique, années 70 et années 80, s'aggrave, là, les chiffres continuent d'augmenter. On est maintenant à 66 000 détenus écroués dans les prisons françaises. Donc, on dépasse le record que l'on avait en 1946. Donc, c'est vrai, c'est dur de raisonner purement économiquement. Et il faut aussi intégrer ces effets sociaux. Mais sachant, après, qu'on peut avoir des phénomènes très curieux. C'est-à-dire, un pays qui va avoir une situation économique donnée, on peut avoir, alors c'est surtout assez facile hein, dans des pays comme les États-Unis où on va comparer de comté à comté et de dire mais c'est intéressant, dans ce comté-là, la criminalité est forte, pourtant le taux de détention est faible. Ou la criminalité est forte dans celui d'à côté, le taux de détention est fort. Et inversement, si bien qu'on a une déconnexion complète à la fois du nombre de détenus et du taux de criminalité, et du nombre de détenus et de la situation économique. Vous voyez, c'est très intéressant.
Il y a deux exemples dans l'histoire récente qui sont assez connus. Alors, est-ce qu'ils sont parlants ou est-ce qu'ils sont au contraire exceptionnels? C'est Churchill, lorsqu'il arrive au pouvoir, donc à la toute fin des années 30, au début des années 40, effaré par le nombre de pauvres qui sont en prison, fait chuter le nombre de détenus à 30 pour 100 000 habitants. Et puis, bien entendu, plus proche de nous, Jean-Luc Domnack, il y a Gorbatchev qui fait tomber le nombre de détenus en URSS à 350 détenus par habitant. Donc, on peut aussi avoir l'impression que c'est parfois juste une question de choix politiques et que ces choix politiques, alors, est-ce qu'ils sont faits uniquement, j'allais dire, par les élites et sous-entendu de manière déconnectée des opinions publiques et des corps citoyens, ou est-ce que vous diriez les uns et les autres qu'ils sont le reflet d'évolutions sociales et idéologiques? Marie Morel.
On a envie de vous répondre que toutes les réponses sont valables. Ce qui se passe, c'est que je dirais, si je prends l'exemple du Cameroun, la prison n'est pas construite comme un problème public. Donc à partir de là, il n'y a pas un débat où les populations, à travers des associations, pourraient s'emparer de l'objet prison et ouvrir une discussion sur doit-on punir en recourant à l'enfermement. Cela étant, si ce ne sont pas les populations en tant que telles, on voit à travers différentes coopérations l'importance des institutions internationales, le souhait de faire de la prison un lieu de débat, mais il y a une manière très très facile de le détourner. Si par exemple en ce moment au Cameroun, il y a des négociations entre plusieurs institutions internationales et l'État camerounais autour de la prison. Certaines associations, certaines institutions veulent évidemment qu'il y ait un débat sur les conditions de détention, mais aussi sur le nombre de détenus. Sachant que le Cameroun, c'est peu ou prou à peu près le même taux d'incarcération qu'en France. À peu près 119 pour 100 000 habitants. Mais le Cameroun répond « Améliorons les conditions de détention en construisant deux nouvelles prisons », ce qui, au passage, permet de décrocher des marchés publics et l'enrichissement des élites. Donc on résume très rapidement le débat à « Améliorons les conditions de détention » et on esquive complètement une discussion sur « Faut-il enfermer les pauvres ?» ou « Faut-il enfermer en temps de crise ?» sachant que finalement, le Cameroun a toujours été faiblement industrialisé, donc on ne va pas pouvoir réfléchir dans les mêmes termes que l'Afrique du Sud ou que l'Algérie, où il y a eu industrialisation, pénalisation des atteintes à la propriété, puis pénalisation d'une population qui ne trouvait plus à s'embaucher. Pour autant, la prison reste la peine des pauvres, et c'est une manière de gérer la pauvreté en ville et dans les campagnes, en Afrique.
C'est également le cas en Chine, Jean-Luc Domnack.
Ah oui, là c'est clair et net, les pauvres, mais il y a aussi, dans le cas chinois, cet élan, disons, ravageur du communisme industriel pour en finir avec la société d'auparavant, qui était une société rurale, avec une société qui n'enfermait pas, mais qui prétendait rééduquer, avec quelques bons coups de fouet aussi. Hein. Bon, mais il y a là, on sent très bien, quand on travaille sur la Chine et sur la prison en Chine, l'effet carcéral de l'élan modernisateur. Ça, c'est clair et net, l'industrie, le classement de la population, etc., etc.
Parce que dans un entretien que vous aviez accordé au débat il y a quelques années, la revue Le Débat, dirigée par Pierre Nora, vous disiez, je vous cite, « La Chine est un pays où l'on déteste la police et où il ne faut surtout pas se trouver en prison. »
Voilà, c'est ça. Parce que les flics sont abominables et parce que la prison remplace, disons, ce qui était théoriquement de l'éducation, l'éducation à la morale, par les coups et une sorte de jeu d'apparence. Donc c'est vraiment ça, c'est clair et net. Il y avait quand même une intention aussi que j'essaye de maintenir vivante. C'est toujours de bien distinguer, à propos de la Chine comme de beaucoup d'autres pays, ce qui est de l'ordre, comment dire, de la prétention, de l'ordre de la politique et ce qui est de l'ordre de la réalité. En Chine, comme dans la Russie soviétique, comme même dans la Corée du Nord d'aujourd'hui, comme dans le Vietnam, une chose est l'élan ravageur d'un côté, et qui ravage vraiment, et d'autre part, la constitution de contre-société, de contre c'est extraordinaire comme dans les prisons, il se crée les prisons chinoises, il se crée une sorte de deuxième organisation qui est celle des détenus. Et bien souvent, c'est les détenus qui et c'est d'ailleurs pas le cas dans les seules prisons chinoises, puisque mon père Jean-Marie Domna, quand il avait, je crois que contribuer à la fondation du Gisti, je crois, ou de ces choses-là.
Le groupe d'intervention et de solidarité sur les travailleurs immigrés.
Voilà, c'est ça. Et, non, alors, les prisons aussi, le GIP, groupe d'information sur les prisons, pardon. Et alors, il avait été effaré par le nombre de cas où des prisonniers un peu malins, poussés par la société carcérale, arrivaient à jouer des rôles tout à fait considérables. Moi, je connais une bonne dizaine de camps de travail en Chine qui sont tombés dans les mains d'un type génial, que puis tout le monde s'est rallié à lui, parce qu'il fait gagner du fric à tout le monde, et obtient la libération d'un certain nombre de prisonniers. Donc il faut bien voir aussi, il y a, comment dire, les propagandes, les apparences, et puis il y a derrière la réalité, les réactions des sociétés, etc.
C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, me semble-t-il, les gens qui, comme vous, travaillez, on va dire, sur le terrain des prisons, propose une analyse un peu distanciée des travaux de Michel Foucault. Olivier Millot, ce que vient d'évoquer Jean-Luc Domnac, moi ça me fait évidemment penser à ce qu'il vous est arrivé de raconter dans diverses enceintes sur le fait que la prison est un anti-monde, terme que vous avez évidemment emprunté à Roger Brunet. Vous pouvez nous expliquer ça un peu ?
En fait, cette idée d'anti-monde, donc effectivement, ce qui avait été proposé par le géographe Roger Brunet, c'était d'imaginer des lieux où à la fois on peut déroger à la règle, qui ne devrait pas exister dans le monde, mais qui sont malgré tout nécessaires à son fonctionnement. Alors il prend par exemple l'exemple des paradis fiscaux. On va dire, mais non, attendez, normalement, dans une économie capitaliste, on n'a pas besoin de paradis fiscaux, et pourtant, ils deviennent nécessaires, ou les zones franches, par exemple. Et dedans, il mentionne aussi le cas des prisons, des asiles psychiatriques, sûrement. Et effectivement, en fait, la notion est intéressante spatialement. Là où, par contre, elle pose problème, enfin, si elle est intéressante spatialement, c'est sur l'aspect discrétion de l'anti-monde, où ça va être des lieux à l'écart des lieux cachés.
Des interstices de la mondialisation.
Voilà, des interstices, etc.
Donc, le côté là, obscur y a un aspect de la force, presque un trou noir.
Mais oui, et puis après, l'aspect intéressant de rapprocher des lieux, enfin, prison et paradis fiscaux, moi, j'ai jamais vu un seul texte qui arrivait à rapprocher des lieux comme ça. Donc, il y a un aspect intéressant là-dessus. Le risque, c'est de, et je suis d'ailleurs tombé un peu dans ce travers, ça a été de systématiser l'analyse en termes d'anti-monde, en disant, voyons voir ce qui fait anti-monde dans une prison ou ce qui ne fait pas anti-monde dans une prison. Sachant qu'on est dans des cas, Marie Morel et M. Domenac, vous le rappeliez à l'instant, avec quantité de paramètres. C'est-à-dire la question de Sylvain Kahn sur quelle est la place des élites et des opinions publiques dans le recours à la prison. On a le cas de la Finlande, qui s'aperçoit au milieu des années 60 ou 70 qu'ils ont un taux d'incarcération qui les rapproche des soviétiques, ce qui est vu comme la pire insulte qu'on puisse faire à un Finlandais. Et là, c'est les élites qui décident de surtout s'aligner sur les taux des Scandinaves, de leurs voisins scandinaves, pour ne surtout pas apparaître comme soviétiques. Donc là, pour le coup, ça viendrait des élites. Et à l'inverse, pour l'opinion publique, vous avez la criminalisation croissante de la délinquance sexuelle, qui était absente dans les années 50-60, qui là est liée droit des femmes, droit de l'enfant, où il va y avoir une forme de pression de la société là-dessus.
Alors, à propos des pays scandinaves, écoutons la suite reportage effectué par Sophie Bobert quand elle a été voir donc Marie Cretneau, responsable de l'Observatoire international des prisons, qui nous parle du Danemark.
Dans quelle mesure est-ce que vous, ici à l'OIP, vous vous inspirez de certains pays dans le monde et quels sont vos outils ?
Alors, on a effectivement des zones, des sources d'inspiration qui nous sont données aussi par le Conseil de l'Europe, qui a tout un corpus là-dessus, et notamment avec un outil qui s'appelle les règles pénitentiaires européennes, qui est adopté par le Conseil des ministres, avec un certain nombre de recommandations qui sont basées sur des travaux de recherche. Et c'est aussi pour ça que le Conseil de l'Europe développe donc cette autre approche. Et on a donc, pour revenir aux sources d'inspiration, c'est ceux qui respectent le plus cette logique-là, c'est les pays scandinaves et notamment le Danemark, avec une conception assez différente de la détention, où le temps dedans doit être un temps le plus utile possible.
Pas forcément court, mais utile.
Ce qui se passe, c'est si les peines sont moins longues et le temps dedans est mieux géré, mieux construit et ils ont beaucoup moins peur de la porosité dedans-dehors. Il y a pas mal de gens qui rentrent en détention et puis c'est un système pour les condamnés, généralement pour la majorité, de prison ouverte. Et pour éviter l'infantilisation, les détenus peuvent déambuler dans l'enceinte pénitentiaire, se regrouper, ont des activités tout au long de la journée. Quand ils travaillent, c'est en équivalent temps plein, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et c'est ce système, en fait, de les occuper toute la journée et puis ensuite d'avoir le fonctionnement le plus normal possible par rapport à l'extérieur. C'est par exemple, ils vont se faire eux-mêmes à manger, ils sont responsables de leur linge. Les familles peuvent plus facilement venir que chez nous. Voilà, il y a toutes. Ils ont même, dans certains établissements, la possibilité d'avoir des téléphones portables. Alors, c'est des téléphones portables qui sont rendus fixes. Enfin, ils sont rendus fixés au mur, mais du coup, ils ont la possibilité d'appeler leurs proches le soir, etc. Et donc c'est toute une journée de détention qui est un peu calquée sur la journée des gens à l'extérieur.
Mais alors au Danemark et dans les pays nordiques, j'imagine que ces conditions plus favorables au bien-être des détenus a un coût. Est-ce que ce n'est pas là le nerf de la guerre aussi, au-delà des populismes ?
Oui, bien sûr, c'est un coût, mais alors ils ont eu aussi une autre approche, c'est que depuis des décennies, ils n'ont pas augmenté le parc carcéral, ils n'ont pas construit. Et au contraire, ils ne construisent pas parce qu'ils veulent investir dans tout ce qui est alternative à l'incarcération. Et d'ailleurs, leurs établissements ne sont pas surpeuplés. Et ils ont un taux de détention bien moindre que le nôtre. Nous, on est à peu près à 116 détenus pour 100 000 habitants. Eux, ils ne sont qu'à 60 détenus pour 100 000 habitants.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
Quand on entend ce qui est raconté par Marie Crétineau, responsable du plaidoyer à l'OIP sur le Danemark, on a vraiment l'impression qu'il y a au minimum deux conceptions antagonistes de l'utilité, de la fonctionnalité de l'espace carcéral, Olivier Millot.
Oui, complètement. Avant, on avait pour la France cette idée-là que la peine devait être utile. Et maintenant, on est entré dans ce qu'on appelle les prisons post-disciplinaires, c'est-à-dire on quitte le schéma de Michel Foucault de surveiller et punir, où en gros, c'est une fonction de neutralisation. C'est-à-dire, les personnes qui n'ont pas été prises en charge par les autres institutions, c'est-à-dire là où l'école a échoué, là où le marché du travail a échoué, là où la famille a échoué, la porte finale sera celle de la prison.
C'est-à-dire de l'enfermement.
L'enfermement. Et où, en fait, la peine n'aura pas une réelle utilité. Ce qui a d'ailleurs d'intéressant, c'est qu'on interprète l'échec de la prison comme le besoin de prison. C'est-à-dire, quand vous avez quelqu'un qui sort en libération conditionnelle et qui commet une récidive, on dit « Ah, on l'a sorti trop tôt de prison ». Au lieu de se dire « Non, la prison, précisément, sert à rien, vu ce que ça coûte, c'est quand même assez incroyable, cet investissement financier colossal pour quelque chose... quelque chose qui fonctionne pas pour grand nombre de personnes. Encore une fois, faut pas accabler la prison. C'est aussi l'école qui a échoué, le marché du travail qui a échoué, les familles qui ont échoué, le bien social, bien évidemment.
C'est un choix de société que ça a été rappelé de construire des nouvelles places en prison. Mmh. Ça se fait dans à peu près tous les pays. Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs derrière dans cette dynamique de construction de places en quantité de plus en plus grande, on en a parlé tout à l'heure, il y a bien sûr, on va dire, un intérêt et une logique économique, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce d'illusion, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, spatialiste ou urbanistique ? Dans un de vos articles, Olivier Millot, vous allez assez fort jusqu'à comparer, on va dire, l'illusion qui peut consister à croire que un certain type d'espace, en l'occurrence l'espace carcéral, peut régler les problèmes dont on parlait à l'instant. Vous le comparez avec le tel ou tel discours de Le Corbusier expliquant que, en transformant l'espace, on allait transformer la vie en société.
Bah oui, c'est assez paradoxal, puisqu'on va demander à un même espace, l'espace carcéral, de punir, de dissuader, de guérir, de réinsérer, d'éduquer. Enfin, attendez, ça se saurait si un espace comme ça existait. Et on va quelque part rajouter des fonctions à la prison, et rajoutant même d'ailleurs, ça c'est quand même incroyable, des fonctions pour lutter contre l'effet de la prison. C'est-à-dire, c'est l'une des fonctions de la médecine en prison, de lutter contre les effets délétères de l'enfermement. Oui. On se dit, non mais, c'est vraiment...
C'est vrai, pardonnez-moi quand même. Moi qui travaille sur l'horreur de l'horreur, etc., je trouve que Le Corbusier, c'est quand même, c'est l'arrivée chez le pâtissier, quand même, faut bien dire. Hein. C'est quand même... On est loin, comment dire, de la sauvagerie, quand même. Ça ne marche pas. Le Corbusier, un bel environnement, etc. Vous dites, bon, c'est quand même la prison, c'est la privation de liberté, c'est ça que vous dites. Mais moi, je vous dis, la privation de liberté, quand il n'y a pas de la merde qui suinte sur les murs, quand les gens ne sont pas à 50 dans un espace fait pour 10, c'est quand même moins dramatique. Faut quand même,
moi, je, ah oui, ça, bien sûr. Oui, non, mais je vois votre main. Oui. Mais juste sur, puisqu'on a le cas en France, de prisons ultra-modernes qui se construisent, où et les détenus et les surveillants, dont on parle pourtant peu, alors qu'eux restent en prison très longtemps, et les détenus et les surveillants se plaignent de l'aspect déshumanisant des prisons, alors même qu'elles sont très confortables. Les murs sont propres, il y a une douche en cellule, ce qui est
D'accord.
Là, vous évoquiez, par exemple, la prison de Condé-sur-Sarthe, dont on a beaucoup parlé en 2014, puisque prison ultra-moderne, mais qui est aussi considérée comme très hautement sécuritaire, est une des prisons, et je crus comprendre, qui fonctionnait le plus mal. Et peut-être que, enfin, je dis peut-être, c'est même à peu près certain que les uns et les autres, vous aviez vu ce film australien, n'est-ce pas, sur les prisons haute sécurité. Je recherche dans mes notes le titre de ce film qui commençait par Ghost of the Civil Dead, je crois, où dans une prison ultra moderne, avec un quartier hautement sécurisé, finissait par plonger, c'était en tout cas la thèse du réalisateur, finissait par plonger les détenus dans un très grand état de barbarie. Voilà, j'ai retrouvé, c'était un film australien de John Hillcoat, qui était donc sorti en 1988. Donc, est-ce que ça vous amène, Jean-Luc Domnac, à nuancer vos propos ?
Non, mais oui, bien sûr. Sauf que, vous comprenez bien que, heureusement que les prisonniers sont mécontents, quand même. Il leur reste ça, quoi. Donc, c'est pas pour moi seulement un argument. Pour penser que Le Corbusier, c'est pas bien. Je me dis qu'ils râlent, ça veut dire qu'ils restent... c'est quand même leur dernière liberté. Bravo.
Si je citais Le Corbusier, c'était l'aspect utopique de l'urbanisme censé résoudre tous les problèmes sociaux. Après, oui, vous prenez les prisons russes, du fait de la surpopulation, vous avez une épidémie de tuberculose dramatique, ces gens sortent après la rue, et puis, en prison, n'ayant pas suivi le traitement, ils développent une tuberculose résistante. Enfin, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous sur les... Mais c'est plus... Il ne faut pas être pris par le modernisme, et c'était là-dessus où je mentionnais qu'il serait un peu utopique, où l'espace résoudrait tout. En
fait. Marie Morel.
Je voudrais aussi réagir, parce que justement sur cette question de l'amélioration des conditions de détention, sur le continent africain, donc il y a systématiquement une mise en cause des conditions, comme si améliorer les conditions, et notamment le fait que ce soit propre, qu'il y ait des douches individuelles, etc., garantirait une bonne prison. Et en conséquence, cette bonne prison serait finalement incarnée par des prisons occidentales. Le problème, c'est qu'est-ce qu'une bonne prison ? Et je crois qu'on le voit avec le reportage que vous nous avez fait écouter, au Danemark, on n'est pas en train de réfléchir, alors je ne connais pas le Danemark, mais de ce que j'entends, on n'est pas en train de réfléchir en termes justement d'architecture et de conditions, on est en train de parler de la place du sujet. Et il y a toute cette question du rapport à l'infantilisation et redonner de l'autonomie aux personnes en prison pour que le temps soit utile. Et je crois qu'on n'a pas résolu encore cette question de l'autonomie dans un espace où de fait vous êtes enfermé. Et donc par conséquent, si vous êtes enfermé et que tout est contraint, quel que soit le degré, qu'est-ce qui est donc utile à l'individu ? Donc c'est pas de moi, mais de dire que réformer la prison, en fait la prison ne fait que se réformer. Et puisqu'on propose systématiquement une réforme de la prison, finalement on continue à la légitimer. Et pourtant, enfin, on le remarque depuis le début de l'émission, on ne fait que parler de la douleur, de la souffrance d'être en prison, de l'échec des sortants de prison à refaire leur vie, de la destruction des familles, de l'effet sur les proches, etc.
Je suis profondément d'accord avec tout ça. Il n'y a pas de bonnes, il n'y a pas de bonne prison fondamentalement, et il y a un réformisme pénitentiaire qui est finalement quelque chose de condamné et de condamnable. Bon, ça c'est clair, mais au total, il meurt plus de gens dans une catégorie de prison que dans une autre. Même si dans l'autre, il y a peut-être un peu plus de gens qui deviennent fous. Je veux bien le croire. J'aurais tendance à ça, quoi. Dans les prisons chinoises, on crevait de maladies. Voilà. Et maintenant, on n'y crève plus de maladies. Peut-être qu'il y en a plus, en revanche, qui se pendent à une poignée de porte. Ça, je suis. Et donc, il n'y a pas de bonne solution. Mais il y en a des pires que les autres. Moi, je trouve que c'est plutôt ma position.
Et il y a aussi en Chine, en tout cas, si j'en crois par ce très beau film qui était sorti il y a quelques années sur le juge Feng, il y a aussi une manière d'essayer de rendre la justice qui ne passe pas forcément par l'incarcération. Et donc en Chine aussi, je suppose, oui.
Enfin, attendez, il raconte des salades hein, aussi.
Dans ce film?
Oui. Il raconte des salades. Non.
Là, il faut pas le croire.
Ils sont très. Non. Il faut pas suivre ces trucs-là. Voilà. Non. Ils sont bêtement prison, etc.
Voilà. Mais alors. Il y a aussi la question du travail en prison, qui est une question à la fois économique et spatiale.
Oui, même chose. Même chose, j'aurais tendance à dire que s'ils n'ont pas de travail, c'est l'horreur, les gangs prolifèrent, etc. Et s'il y a du travail, il y a de l'exploitation, etc. L'un dans l'autre, j'ai tendance à penser qu'il y en a un qui
est moins pire que l'autre.
Moins pire.
Marie Morel,
c'est compliqué parce que de toute façon, dans toutes les prisons, il va y avoir des logiques informelles qui vont être tolérées et négociées avec les surveillants. Donc ça, peu importe le pays. Donc il y a une adaptation à l'institution. Ensuite, à partir de là, soit l'institution propose du travail, mais on est sous des formes d'exploitation parce qu'il est plus ou moins rémunéré. Et puis, soit l'institution n'en propose pas, mais les détenus vont s'en inventer. Alors, il y a des rapports d'exploitation entre détenus, mais il y a aussi des rapports de redistribution. Ouais. Je pense que les gangs, ils ne sont pas présents dans toutes les prisons. Ouais. Il y a des gangs dans les prisons sud-africaines, il n'y a pas de gangs dans les prisons camerounaises. Ouais. Et par conséquent, c'est vrai qu'on a souvent ce débat avec Olivier de savoir sur ce gradient, finalement, au Cameroun, si vous avez la visite de vos proches, ou si vous connaissez déjà la prison, donc vous appartenez à l'univers du crime, ou si vous êtes un peu malin, certes, si vous n'avez rien de tout ça, vous êtes beaucoup plus exposé que dans une prison en France. Mais si vous avez ça, vous allez négocier des sorties, vous allez mettre en place des trafics. Alors trafic, pas forcément téléphone portable ou cannabis, hein, puisque tout manque. On fait tout rentrer, même une vente de tomates rapporte quelque chose. Et finalement, vous allez devenir quelqu'un qui donne un sens, enfin qui ne donne pas, qui fait quelque chose de sa période d'incarcération et qui va, je connais des détenus, qui renvoient de l'argent à l'extérieur à leur famille. Donc finalement, la marge d'autonomie est assez forte et ils se créent du travail et ils peuvent s'enrichir en prison parfois plus que ce qui aurait été fait à l'extérieur. Attention, je ne suis pas en train de dire que du coup c'est bien, mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est quelque chose de très complexe et qu'il y a des rapports d'exploitation dans lesquels ces rapports-là s'inscrivent, mais à l'échelle du fonctionnement de l'espace carcéral, vous avez des personnes finalement dans des contextes où l'État est en retrait, où il y a une forme de décharge aux surveillants et encore plus aux détenus, où il y a des détenus qui s'enrichissent en prison et qui exploiteront plus ou moins les autres.
Et quoi des prisons militaires dont on parle finalement très peu, peut-être parce qu'on n'a aucune information sur elle.
Alors, moi, j'ai eu des récits sur la prison militaire de Yaoundé. Donc, c'est une expérience assez indirecte. Dans des régimes autoritaires où l'armée reste très puissante, les prisons militaires, alors sans vouloir m'avancer à généraliser, sont quand même des prisons qui ne sont pas touchées par la surpopulation, où vous avez beaucoup plus de souplesse dans les règlements, mais encore que je viens de dire qu'il y en a beaucoup de toute façon dans les autres prisons. Mais je dirais que les régimes autoritaires traitent relativement correctement leurs officiers et leurs sous-officiers. Et en tout cas, le fait même déjà de les mettre dans des prisons à part les protège un peu plus de l'insalubrité, de la surpopulation. Mais c'est difficile pour moi de généraliser.
Sur la Chine, Jean-Luc Domenac, il y a quelque chose à dire sur les prisons militaires spécifiquement, ou c'est un...
Non, pas tellement, parce que les militaires étaient au pouvoir chez les civils, donc les prisons militaires sont les prisons civiles, elles sont pourries, etc. Mais je voudrais revenir à ce qui me paraît être le problème fondamental. Il y a une chose qu'on a dite, et on a varié sur le détail, mais la prison, c'est pas bien. Mais il y a autre chose, vous m'excuserez, qui est comment faire en sorte que les sociétés arrivent à inventer autre chose.
Se passe de prison.
Voilà. Et comment trouver quelque chose qui satisfasse le niveau insuffisant d'éducation, de compréhension, etc., etc. C'est ça, moi, que ça fait 40 ans que je me pose cette question-là et j'ai toujours pas de réponse.
Ben, Olivier Millot, il y a partiellement répondu tout à l'heure sur l'Inde. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Marie Morel, très rapidement, parce que l'émission touche à son terme.
Il y a une phrase classique hein, qui dit que la prison, c'est la peine des pauvres et que l'amende est bourgeoise. On voit peu de crimes enfin, pour les cols blancs finir par une incarcération. Donc ça veut bien dire que quand on décide de ne pas mettre en prison, ça reste possible, plus que la question des médiations plus ou moins formelles, telles que Olivier les citait pour l'Inde.
On en reste là. Marie Morel, Jean-Luc Domenac, Olivier Millot, merci beaucoup pour vos précieux éclairages. Les liens vers vos sites internet sont accessibles depuis la page de Planète Terre sur France Culture. Je rappelle ici les titres de vos publications évoquées à l'antenne. Chine, l'archipel oublié, publié chez Fayard par Jean-Luc Domenac. Coordonné par Marie Morel et Jamila Zeneidi, le numéro de printemps 2015 des Annales de Géographie dédié à l'enfermement est publié aux éditions Armand Collin. L'Atlas Global des éditions Les Arènes, dans lequel Olivier Millot a écrit le chapitre Derrière les barreaux, est dirigé par Gilles Fumet et Christian Grataloup. C'était donc l'univers carcéral est-il en expansion ? Il me semble que oui, mais vous avez apporté un certain nombre de nuances. Alors, le reportage à l'Observatoire international des prisons est signé par Sophie Beaubert, Luc-Jean Reynaud, Clément Daté, Catherine Madure et la documentation sonore nous ont accompagnés en régie pour la préparation de cette émission qui est en ligne 1000 jours en podcast 1 an et que vous pouvez suivre et commenter en postant vos commentaires sur la page Planète Terre du site web de France Culture. Vous pouvez également télécharger les émissions précédentes, Dernières nouvelles de l'Arctique et Sur les traces de l'espèce humaine. C'était une visite guidée dans le nouveau musée de l'homme.